Rebonjour, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie ma collègue Camille Cusset. Bonjour Camille, comment
Bonjour
allez-vous?
François, ben moi ça va très bien.
Ça va très bien, première de l'année. Hein? Alors, un peu de papillon, mais on va y arriver tous les deux. On parle d'une présence chaque semaine. Camille, ensemble, il y a une recherche, je dirais, de tout ce qui se passe dans le monde. On va faire une revue de presse,
Oui.
tout azimut. Et on te donne un mandat de parcourir la planète, là. Et
Beau mandat, hein,
un beau
vraiment.
mandat, c'est sûr. Et en plus, bien, après ça, évidemment, de nous dire qu'est-ce que tu as pu glaner. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on va parler du déminage en Ukraine. Donc, comme vous le savez, il y a un conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie depuis le 24 février, si je ne me trompe pas. Et il y a un enjeu de déminage. En fait, les États-Unis, ils ont annoncé mardi dernier avoir débloqué une enveloppe de 89 milliards de dollars afin d'aider au déminage de l'Ukraine. Parce que selon Kiev, donc la capitale de l'Ukraine, la moitié du pays est contaminée en ce moment par des engins explosifs qui ont été déposés pendant cette guerre. Donc on parle de mines antipersonnelles, d'antichars et d'antivéhicules aussi. Donc ce sont des...
Il faut
Oui.
comprendre que les mines, c'est sournois. Évidemment, le but, c'est qu'on ne
Exact.
les voit pas, on met le pied dessus. Et c'est terrible parce que ça crée un fléau de personnes qui vivent par la suite dans une situation d'handicap. Ils vont perdre un membre, deux ou trois ou
C'est
quatre.
ça.
Et en
Même
plus,
la vie, des fois, c'est terrible, hein.
et ils se retrouvent handicapés en plus dans un pays qui est en guerre.
Oui.
Alors, le soutien est très faible, sinon nul. Donc, cette arme-là est en fait interdite.
Oui, ben voilà, l'usage des mines antipersonnelles est régi, si je peux dire ça comme ça, par un traité international, donc la Convention d'Ottawa, dont l'Ukraine est signataire. La Convention d'Ottawa, elle a été ratifiée par 164 pays à ce jour, et ça n'a pas exactement les mêmes portées que les conventions de Genève, par exemple, ou bien le statut de Rome qui balise le droit de la guerre et les crimes qui en découlent. Donc on ne parle pas vraiment de crimes de guerre avec les usages des mines antipersonnelles, mais c'est quand même régulé. Et malgré ça, il y a une utilisation de ces armes-là en temps de guerre, et en ce moment, c'est un gros enjeu, donc en Ukraine. Et c'est pour ça que l'enveloppe américaine, elle va être versée à des ONG et à des sociétés privées qui sont spécialisées dans le
En
déminage.
déminage, parce qu'on peut croire que c'est un travail qui est très dangereux.
Oui.
Le traité international d'Ottawa, parce que c'est à Ottawa que ça a été signé, dont l'Ukraine et évidemment le Canada sont signataires, ça date de 1997. Mais il faut
Exact.
noter que la Russie n'a jamais signé cette convention.
Eh oui,
Alors, ils
François.
ont, entre guillemets, je dirais pas un droit moral de le faire, parce que c'est immoral, les mines antipersonnelles. Mais quoi qu'il en soit, on est dans une situation de guerre
Oui.
et les Russes minent le terrain. Mais il est question aussi que les Ukrainiens sont pas trop loin derrière.
Ben exactement. Et puis c'est là le côté un peu ridicule de la chose, si je peux dire ça comme ça, parce que donc on donne ces fonds pour déminer, mais on ne va pas les donner au gouvernement parce que justement le gouvernement ukrainien utilise aussi les mines. Et quand... excusez-moi, je me perds un petit
Mais
peu
c'est
dans mon
parce que
idée.
de déminer, évidemment, c'est sûr que l'Ukraine peut toujours dire, ah, c'est pas nous, c'est les Russes, mais on a quand même certains témoignages même de volontaires canadiens qui ont décidé d'aller servir sous le drapeau ukrainien pour défendre le pays, qui se sont fait dire, ben là, tu poses des mines, hein, puis ça fait partie du
Voilà, c'est
travail.
ça. En fait, je voulais pas, disons, mettre l'accusation, mais c'est vrai que, par exemple, l'organisme Human Rights a dit que l'Ukraine semblait respecter toutes les conditions liées aux mines, mais il y a un article quand même qui est paru dans la presse le 22 août dernier, où on apprend que des Canadiens, ils se sont portés volontaires pour combattre les forces russes en Ukraine et ils ont déposé des mines antipersonnelles dans l'est du pays. Donc, c'est une
Mais
situation qui concerne les deux pays.
tout à fait. Et l'Est de l'Ukraine en ce moment, ben, c'est justement le théâtre d'une contre-offensive ukrainienne. Alors on peut penser que c'est... Et les mines, après ça, même une fois que le conflit est réglé, ça reste pendant des années.
Voilà,
Et
eh ben,
on se
faites bien de
retrouve
le dire.
dans un pays qui en temps de paix, puis on va faire une balade en forêt, puis on se retrouve meurtrier pour le reste de nos jours.
Ou même à la mer, parce que donc, l'Ukraine utilise donc, les mines antipersonnelles dans le sol, mais aussi près des zones marines.
Oh, à la plage.
Oui,
oh.
Exactement.
C'est affreux. En fait, il y a des gens qui depuis longtemps travaillent à régler cette question, au moins à militer pour aider les gens qui ont été victimes de mines antipersonnelles.
Tout à fait, tout à fait. Donc, je sais que vous me corrigerez sur ce point-là, mais l'organisme Handicap International, qui est donc une association française qui appartient au réseau Humanité et Inclusion. Donc,
d'accord.
Effectivement, maintenant, ça s'appelle Humanité et Inclusion, qui regroupe une fédération. Ça a été créé en 2009. Et ils œuvrent, en fait, pour protéger au mieux qu'ils peuvent, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas toujours sur place. Dans ce contexte, à protéger les civils en proposant une éducation aux risques et surtout à repérer les zones qui pourraient être susceptibles d'être porteuses et contaminées par les mines antipersonnelles et autres types d'engins explosifs grâce à la couleur et à la forme du sol.
Oh.
Donc c'est vraiment tout un exercice qu'ils mettent en place pour montrer aux gens, bon, cette zone-là, il faut faire attention.
Parce que, quoi, la mine, c'est une coquille qui est en fer, je suppose. Il doit y avoir une oxydation, donc le sol doit se rouiller,
exactement.
Se rougir. Peut-être que quand ça a été enterré, ça a été fait vite, hein, parce que moi, si je plantais des mines et j'avais ça entre les mains, je ne donnerais pas un coup de pelle dessus. Donc, on peut peut-être reconnaître le sol, mais c'est ténu, là.
Ça demande une observation, oui, ça demande de faire attention. Ouf. Et j'imagine que quand on vit dans un pays en guerre, on est un peu plus alerte, en fait. Donc,
On est plus alerte, mais on est aussi plus en danger.
Oui.
Donc, c'est cet organisme, donc Handicap International ou maintenant Humanité et Inclusion,
mm-hmm.
ils font plus que ça maintenant. Ils ont donné... permis à des jeunes femmes, entre autres, dans le monde de réaliser des rêves.
Exactement. Donc, en fait, depuis août 2018, le projet de Humanité et Inclusion a accompagné 185 filles handicapées, dont Kabita, dont je vais vous parler tantôt, pour les aider à trouver des moyens de subsistance et à améliorer leur inclusion dans la société. Donc, le projet... en tout, est supposé aider environ 800 filles du district de Bangke au Népal, dont Kabita fait partie. Donc, en fait,
Kabita, c'est l'histoire, c'est une jeune femme
népalaise. Oui,
voilà.
Exactement, de 21 ans et qui donc a bénéficié de ce projet, du projet d'humanité et inclusion, qui donc a démarré en 2018. Et elle, son rêve, c'était de conduire une petite voiture électrique qui s'appelle le rickshaw.
Le rickshaw qui est en fait, souvent on voit les gens qui, c'est comme une charrette à bras, là.
Voilà,
souvent c'est
ça.
Fait, les gens courent ou font du vélo. Dans son cas, c'est un rickshaw ou un pousse-pousse électrique.
Voilà.
Parce que Kabita a un handicap, mais pas suite à une mine, là, c'est autre
chose.
Non,
c'est de naissance. Et elle a subi beaucoup de discrimination en tant que personne handicapée, mais aussi en tant que femme. Et donc, elle a eu du mal à convaincre sa famille qu'elle voulait faire ce métier-là, qui est toujours d'ailleurs considéré comme un métier d'homme, et les préjugés qu'il y a au sein des communautés. Donc oui, vous parliez aussi c'est soit à bicyclette ou on peut aussi le conduire en scooter. Le rickshaw.
Oui, d'accord. Mais dans son cas, c'est un truc, c'est la même chose, mais électrique.
Oui.
Et c'est vrai que dans beaucoup de cultures, où déjà le handicap est stigmatisé, c'est d'autant... On double la mise si, en plus, on est une femme.
Exact.
Là, à ce moment-là, dans l'échelle de la société, là, on est plutôt au bas et on ne vous donne pas beaucoup de chance de percer, si je peux dire. Donc,
et d'être entendu, malheureusement.
Oui, tout à fait. Et donc, Handicap International, cette société, c'est
une association,
une association,
oui,
internationale,
beaucoup,
c'est un,
oui,
organisme,
voilà,
non gouvernemental, et cette ONG est une, en fait... a dépassé ou a débordé son rôle qui était à prime abord pour... aider les gens qui étaient victimes de mines antipersonnelles. Parlant de droits et d'inclusion dans la société, vous avez été faire un tour aussi en Côte d'Ivoire.
Et oui, donc dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ouh là là, j'espère que c'est ça, sinon
oui,
je vais me faire
tout
taper
à fait
sur les doigts.
Voilà, votre géographie est juste. Bravo Camille.
Parfait. Merci beaucoup. Donc oui, donc en juillet dernier, j'ai appris que l'ONG, donc là ce sera en anglais, Disability Inclusive Development Programs and Services de Jeannette K. Le Guil, en collaboration avec d'autres organismes qui luttent pour les droits des personnes en situation de handicap, se sont constitués une société civile. Donc pour, pas promouvoir, mais vraiment installer et développer les droits des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Donc une première réunion a été organisée le 13 août à Abidjan, pour discuter de l'organisation pratique de la société civile et pour, donc, comme je disais, la promotion des droits. Donc vraiment, le but de cette société civile n'est pas d'une démarche de plaidoyer, c'est vraiment de travailler sur l'inclusion et la cohésion sociale des personnes qui vivent en situation de handicap. Par exemple, au niveau électoral, on parle d'aménagement des lieux et des bureaux de vote que quand les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent voter, faciliter le vote des personnes qui ont un handicap visuel en permettant donc qu'ils puissent opérer leur choix de vote sans se faire accompagner.
Bah, un peu ce dont on a parlé tout à l'heure avec Madame Drolet qui est porte-parole d'Élections Québec.
Oui.
Là-bas, évidemment, l'exercice du droit démocratique est aussi important, mais peut-être les moyens et les habitudes, si je peux dire, de la société ivoirienne sont
exactement
parfois encore à développer. Il y avait une très belle citation, d'ailleurs, dans ce communiqué qui disait « La plupart des organisations des personnes handicapées sont des organisations de plaidoyer pour être assistées. Nous voulons désormais contribuer aux discussions concernant le développement de la Côte d'Ivoire pour intégrer les personnes. » Alors, donc, partie prenante de la société. Et ça, ça fait toute une différence. On
oui
va aller prendre le temps d'avaler une gorgée d'eau, hein? et on va reparler plutôt de sujets culturels.
Plus léger, ben oui.
Voilà. Retour avec ma collègue Camille Cusset. Avant de revenir plus près de nous ici au Québec, dans le domaine médiatique, il commence à être question de la place qu'occupent les personnes en situation de handicap, entre autres à la télé française.
Et si je peux me permettre, ce n'est pas trop tôt. Donc oui, une nouvelle émission va voir, a vu, en fait, ça a commencé la semaine dernière, une émission de style talk show sur la chaîne française France 2, donc d'une durée d'une demi-heure. Et en fait, ça va consister à poser des questions, puis à interpeller, avoir une discussion, en fait, avec des personnes qui vivent avec qui sont sur le spectre de l'autisme.
D'accord.
Et dans cette émission, les participants n'évoqueront jamais leur situation de handicap, mais vraiment, ce sera une conversation comme on pourrait en avoir autour d'un bon verre avec un ami. Au cours d'une entrevue, Clément Chauvin, l'un des producteurs de cette émission, donc qui passe, je répète, sur France 2, qui est une chaîne française, les samedis à 20h30, il a déclaré « On ne parle pas d'inclusion, on la pratique ».
Ah, voilà.
Exactement, donc c'est ça vraiment dans l'esprit. C'est une émission qui a été proposée par Éric Toledano et Olivier Nakache, qui sont donc les réalisateurs d'Intouchables, ce film qui a reçu beaucoup de critiques positives.
Tout à fait, fait réfléchir.
Oui, vraiment, et puis qui est très bien fait. Et aussi du film Hors Normes. Donc ça, Hors Normes, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est avec Monsieur Cassel, Monsieur Vincent Cassel, et que c'est aussi un très beau film, apparemment. Donc l'horaire choisi aussi, c'est une nouveauté, et c'est un grand pas aussi pour la diversité à l'écran, parce que 20h30, c'est quand même une heure de grande écoute.
Exact, ouais.
Donc ça permet aux gens de voir tout ça. Aussi, à partir du 22 septembre 2022, Canal+, qui est aussi une chaîne française, proposera L'épopée joyeuse. Donc, c'est une série documentaire de 40 minutes. Donc, il y aura 4 épisodes de 40 minutes sur le parcours de personnes qui vivent avec un handicap mental ou cognitif et qui trouvent un emploi dans les Cafés Joyeux. Donc, les Cafés Joyeux, c'est une entreprise ouverte à leur situation et à leurs conditions et respectueuse de tout ça.
Alors, évidemment, le propos de la deuxième émission, c'est on parle du handicap, la situation d'handicap que vit la personne.
Oui. Dans la
première instance, c'était plutôt, en fait, on n'en parle justement pas.
Voilà.
Parce qu'il y a comme un pas à faire entre, un, il faut inclure les personnes en situation d'handicap dans l'espace médiatique, et deux, arrêter de faire de leur handicap le sujet
d'une
narratif.
Émission, hein? Voilà.
Il ne faut pas que ce soit au sujet de la chaise ou au sujet de la canne blanche. ça adonne que la personne a un handicap, mais autant que ça peut adonner qu'elle soit d'une race ou d'une autre, qu'elle porte des lunettes, qu'elle soit petite ou grande.
C'est exactement ça. C'est des choses qu'on reproche beaucoup dans l'univers médiatique en France. Je sais qu'en Angleterre, ça existe moins. Notamment dans les séries télévisées, on a des personnages qui sont des personnages et qui ne sont pas des couleurs
des
de peau.
C'est ça. Sujet du jour.
Voilà, voilà, c'est
exact.
Ça.
Parce que, en fait, je trouvais ça amusant. Enfin, c'est amusant parce qu'on rit pour pleurer. Il y avait une nouvelle, justement, au sujet de la représentation des personnes handicapées à la télé en France. Il n'y a que 0,8%.
Qui apparaissent à la télévision.
Des personnages qui sont en situation d'handicap.
Exactement. Ça, c'est basé sur une étude de l'ARCOM, donc, qui étudie justement tous les systèmes médiatiques, entre autres, c'est pas la seule, mais qui étudie ça. C'est sorti en 2021, et oui, donc 0,8% des personnes qui vivent avec un handicap apparaissent à l'écran, alors que ça concerne 20% des Français, pour 16% au Québec.
Et en 2019, et ça, c'est tellement typique. Les chaînes de télé, puis on pourrait mettre n'importe quel organisme sérieux, c'était pourtant engagé à travers une charte, et là, le mot qui blesse, une charte non contraignante. Ah, voilà. Et deux ans plus tard, le bilan est très décevant à ce qu'on nous dit, parce qu'ils n'ont rien fait. Une charte qui est non contraignante,
on
là,
aime ça, n'est-ce
ça
pas?
N'a pas beaucoup de valeur. On est tous pour la vertu, mais est-ce que nous la pratiquons?
Bon, bien dit.
Voilà, peut-être la partie éditoriale du jour.
On apprécie. D'ailleurs, ça me permet, si vous permettez, de faire un petit clin d'œil à une télé-réalité qui va sortir sur Ami Télé en février prochain. Donc, Et si c'était toi ? Donc ça, c'est une télé-réalité, donc amoureuse, avec seulement des personnes qui sont aussi en situation de handicap, donc qui vont à la recherche de l'amour. Et ça, c'est une première, je crois, dans l'histoire de la télé-réalité.
Et parce que là aussi, c'est un autre tabou. Les personnes en situation de handicap peuvent-ils avoir des vies affectives ou sexuelles?
Exactement.
Hein, ça, c'est, et oui, tout à fait. La réponse est oui sur les deux, aux deux cases. Et donc, cette série-là, ça va être à Ami-Télé.
Oui.
Ici, dans le milieu, dans l'espace médiatique francophone et en février.
Oui.
Parlant d'événements au courant de la prochaine semaine, là, et il faut un peu se dépêcher pour s'y inscrire, il y a un organisme canadien, mais qui est plus canadien-anglais que canadien-français ou francophone, qui s'appelle Disability Without Poverty, qui organise ce jeudi midi. Donc, c'est vraiment tout près de nous, là.
Et oui.
Un dîner-causerie, mais il va être également possible d'y participer non seulement en personne, mais aussi par Zoom.
Oui.
Et le dîner aura lieu donc de 13 à 15 heures au centre Saint-Pierre sur la rue Panet, à la salle Marcelin Champagnat. Le mouvement Le Handicap sans pauvreté est un mouvement canadien, un mouvement citoyen qui essaie de pousser le gouvernement fédéral à mettre en place un revenu minimum assuré pour les adultes en situation de handicap entre 18 et 65 ans. On en parlait tout à l'heure dans le segment électoral de notre émission. Et cette prestation pour les personnes en situation de handicap, le projet de loi C-22, bien, il faut que les gens en situation de handicap partout dans le pays se lèvent ou fassent du bruit ou lèvent la main ou en fait fassent quelque chose pour signifier l'importance qu'un tel projet peut avoir pour nous et qu'on aide à sa création et aux détails qui vont le sous-tendre. Alors, cet événement a lieu ce jeudi 15 septembre. Vous pouvez aller sur le site handicap. Le site, parce que le site officiel en anglais, le nom est assez long, merci, et on va vous en faire grâce. Mais il est important de voir les événements qui ont lieu pour mousser la participation des personnes en situation de handicap au sujet de la prestation canadienne. Voilà.
Tout à fait. Et ils ont aussi d'ailleurs un webinaire qui aura lieu donc le 22 septembre. Donc on aura certainement l'occasion de reparler.
Ah, ben bravo, on va pouvoir s'en reparler.
Oui, tout à fait. Donc sur la même question, la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, il y aura des interprètes ASL et LSQ, des sous-titres anglais et la traduction simultanée en français. Donc on s'en reparlera bien sûr.
Ah ben oui, la semaine prochaine, tout à fait, avec tous les détails. Parlons théâtre maintenant.
Et oui, donc un peu de culture. Les Waitresses sont tristes. Donc c'est une pièce de théâtre qui va être disponible en audio description à l'espace libre. Donc l'audio description, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un procédé qui consiste à décrire oralement les éléments visuels et sensoriels d'une œuvre, donc à l'attention d'un public non voyant, semi voyant. Pour faciliter la compréhension et pour donner l'accès à la culture à tout le monde. Donc la pièce Les Waitresses sont tristes, ce sera le 28 septembre à 19h et le 29 septembre à 20h. Donc vous pouvez, les coûts des billets au tarif réduit c'est de $10 au lieu de 35, ils sont offerts au groupe de spectateurs non-voyants et semi-voyants. L'espace libre accepte la carte accompagnement loisir, donc si vous en avez une, c'est l'occasion de l'utiliser. Et il est possible de s'inscrire en ligne également, donc avant le 16. Donc,
et le 16, c'est bientôt, là.
Oui, 12, exactement.
13, 14, 15, 16, c'est vendredi, alors
voilà.
Il faut faire ça cette semaine.
C'est ça, donc surtout, n'hésitez pas. Est-ce que je peux faire une petite description de la pièce?
Ah, ben oui, tout à fait.
Donc selon la description qui a été communiquée par Espace Libre, au son d'une balade country, Morrison, le cow-boy, part à l'aventure, accompagné de son fidèle ami, Timus. Il s'arrête dans un bar où les waitresses servent de la bière et dansent en ligne. Youhouhou!
Oh, la danse en ligne, ça, c'est très populaire.
Ah ben oui! Et partout, hein, pas seulement au Québec. J'étais assez intéressante parce que, pour les auditeurs qui ne le savent pas, je viens de la Guadeloupe. Je suis arrivée ici il y a 13 ans. Puis la danse en ligne, je l'ai redécouverte aussi ici. Donc ça m'a fait plaisir.
Oui, tout à fait. C'est... Il y a des milliers de personnes qui font de la danse en ligne. Là.
Exact.
Donc Timmous et Morrison qui arrivent au bar.
Voilà.
Il y a de la danse en ligne.
Oui. Mais derrière cette fiction fabriquée de toutes pièces se cache un artiste esselé, rêvant à la vie nomade d'un héros western. Pour fuir la tristesse de son quotidien, il s'est inventé un alter ego, tandis que Timmous est un chat mécanique et l'aventure, une simple marche sur un tapis roulant. Oh. Donc c'est assez atypique et puis ça vaudrait vraiment la peine de la voir et de l'entendre.
Et si je comprends, les Waitresses sont tristes, c'est une création d'un artiste qui est oui. neurodivergent.
Exactement.
Et donc, ce n'est pas un point de vue, je dirais, aussi terre à terre qu'on pourrait le croire. Il y a là-dedans vraiment une expérience qui, je dirais, n'est pas souvent portée à la scène.
Mais il y a toute une réflexion, et c'est très vrai ce que vous dites là. En fait, cet artiste, il appartient à la compagnie Joe Jack et John. Et le mandat donc, de cette compagnie-là, c'est vraiment l'inclusivité, bien sûr, à faire entendre la parole des personnes qui sont peu écoutées et donc qui ont souvent une vision de la vie qui est influencée, veut pas, par leur situation de handicap, par leurs conditions.
Qui est atypique, mais tout aussi valable.
Voilà, mais bien sûr. Mais qui change surtout de ce qu'on voit d'habitude. C'est un petit peu comme le fait d'avoir des femmes réalisatrices. On a le point de vue des femmes à l'écran, et pas seulement devant la caméra. Donc, je répète, les Waitresses sont tristes. Inscrivez-vous sur le site de l'Espace Libre avant le 16 septembre. Donc,
et Espace Libre, pour ceux, si je ne me trompe, c'est sur la rue Ontario, un petit peu à l'ouest de Papineau.
Ça doit être ça. Je sais que
ça
c'est sur Ontario,
ça.
Mais
moi,
où exactement? Moi,
vous avez déménagé, mais là, j'espère pas vous envoyer sur une mauvaise piste. Mais pour réserver, obtenir plus d'informations, communiquer avec Mme Pénélope Bourque au 514-279-9821, 514-279-9821, ou encore Pénélope, P-E-N-E-L-O-P-E, à commercial Joe Jack John, joejackettjohn.com. Avant le 16 septembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Camille,
merci
de nous
à
avoir
vous.
Accompagnés partout dans le monde, en Ukraine, en Côte d'Ivoire, au Népal, en France, et peut-être sur la rue Ontario.